N'ayez pas nécessairement des questions, mais si vous en avez, faut pas hésiter à les poser progressivement. Ça vient. Et s'il y a des choses que j'oublie, n'hésitez pas non plus à le dire, parce que on cherche ensemble. Je suis tout à fait convaincu que je cherche. Je ne donne pas une solution. Parce que on est tous à chercher. C'est très important, mais c'est un problème capital. Ça sûrement. Et ça explique du reste pas mal d'attitudes qu'on peut avoir vis-à-vis de nous. Ce que vous venez de dire au dernier cours illustre-t-il bien l'analogie entre la transsubstantiation du pain assumé par le Verbe de Dieu, par le corps du Christ, et la transsignification du Christ à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme, parce que son humanité est assumée par le Verbe de Dieu. Oui, c'est sûr. Je l'ai dit, la lumière de l'incarnation éclaire tout. Ce que je voulais montrer, c'est que, de fait, et ça me semble important, on y reviendra, pour la question de la parole de Dieu. Ce que je voulais montrer, c'est que, d'un côté, quand il s'agit du sacrement de l'Eucharistie, c'est net, l'Église le définit. L'Église a rejeté transsignification, du moins, elle l'a accepté, mais en disant que ce n'est pas suffisant. L'encyclique sur l'Eucharistie de Paul VI, pendant le Concile, il reprend ça. J'avais vu le texte, parce que j'étais à Rome à ce moment-là, j'avais vu le texte soumis par un théologien dominicain dire: est-ce qu'on ne pourrait pas ne plus parler de la transsubstantiation? Puisque ce mot transsubstantiation fait très grosse difficulté à nos frères séparés, les protestants. Est-ce qu'on ne pourrait pas employer tout simplement transsignification, transfinalité? Ils l'ont expliqué du reste. Vous voyez, au fond, c'est la philologie qui remplace la métaphysique. Le Concile, le Saint-Père a écrit à ce moment-là une lettre, une encyclique sur l'Eucharistie, pendant le Concile. Ce qui fait que, je me souviens, c'était la veille où l'encyclique paraissait à Rome. La question se posait, on ne savait pas si l'encyclique paraîtrait ou paraîtrait pas. Est-ce que le Saint-Père a le droit de faire une lettre encyclique pendant le Concile? Est-ce qu'il ne doit pas se taire et laisser le Concile passer devant? Il comprend très bien ces questions. D'autre part, si le Concile a lieu, c'est parce que c'est le Saint-Père qui convoque le Concile. C'est pas le Concile qui se convoque lui-même. Donc le Saint-Père garde toute son autorité pendant le Concile. Puisqu'un décret n'est valable que si le Saint-Père le signe. Donc il garde toute son autorité, il ne perd pas son autorité, c'est toujours la même chose. L'autorité du Saint-Père ne vient pas des évêques, il vient du Christ. Alors c'est une autorité qui demeure, et il demeure avec son autorité de pape, c'est lui qui convoque, et c'est lui qui signe tous les décrets. Évidemment, il tient compte de savoir ce que disent les évêques, c'est bien évident. De sorte que ça a été rejeté, et le mot transsubstantiation, le Saint-Père a dit, dans cette encyclique, a laissé, Mysterium Fidei, a laissé le point de vue de la transsubstantiation. Alors, ça m'intéresse, puisque nous devons travailler la question de la parole de Dieu. Et que ici, ça m'intéresse spécialement pour voir la possibilité d'une théologie. Sur quoi ça repose? Il faut, pour qu'il y ait théologie, puisqu'il y a de fait une coopération entre l'intelligence et la foi. Il faut qu'il y ait un lieu de coopération. Si c'est totalement différent, il n'y a pas de coopération. Si la parole humaine, du fait même qu'elle est assumée dans le point de vue prophétique de l'aspiration, si elle perd sa signification et qu'il n'y a que les apparences, il ne peut pas y avoir de coopération véritable. Il ne peut plus y avoir qu'un langage symbolique. C'est très intéressant ça, parce que je crois que ça nous fait comprendre comment ceux qui disent, et on vient de me rappeler que beaucoup de théologiens allemands considèrent que la théologie en France, elle reste symbolique. C'est intéressant de voir que si ces théologiens qui disent que la théologie ne peut être que symbolique, est-ce qu'ils ont pensé à ça? Est-ce que de fait, c'est ce qu'ils considèrent? Que la parole humaine perd sa signification du fait même que Dieu s'en sert. Comme pour la transsubstantiation, le pain n'a plus sa substance de pain, il n'y a que les apparences. Et, alors là, c'est pour préciser sur quel point exactement porte la possibilité d'une coopération, c'est-à-dire d'une vraie théologie. La théologie, c'est l'œuvre de la foi et l'œuvre de l'intelligence. Et c'est la foi qui se sert de l'intelligence humaine pour expliciter, pour progresser dans l'intelligibilité de la parole de Dieu. Donc dans la signification. Toute intelligibilité implique une signification. Hein. C'est la clé. Alors, le point. Oui, il y a possibilité d'une coopération. C'est que il s'agit d'une transsignification ou d'une transfinalité et non pas d'une transsubstantiation. Par le fait même, il y a possibilité d'analogie. Je disais, le Christ dit mon Père. Et quand nous disons mon Père, notre Père, quelle analogie y a-t-il? Quand Dieu dit qu'il est le roc, je vois très bien ce que c'est que le roc. Pour moi, quand je m'appuie sur une pierre, c'est mon roc, c'est ma stabilité. Quelle analogie a-t-il ? On voit très bien que dans l'écriture, il y a des analogies propres et des analogies métaphoriques. S'il n'y avait que des analogies métaphoriques, il n'y aurait pas de théologie au sens propre. Il y aurait une théologie métaphorique, une théologie symbolique, ça n'irait pas plus loin. C'est donc de l'ordre descriptif et pas plus, d'ordre poétique et pas plus. Pour qu'il y ait une vraie coopération et donc qu'on atteigne une théologie scientifique subalterné. Il faut qu'il puisse y avoir de vraies analogies. Voyez, je crois, personnellement, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis maintenant pour que vous voyez mieux. Pourquoi saint Thomas commence-t-il sa somme théologique par rappeler que l'intelligence humaine peut, par elle-même, atteindre l'existence de Dieu? Et je vous ai dit, ces cinq voies de saint Thomas, c'est saint Thomas qui veut éprouver l'instrument dont il se sert. Il se sert comme instrument de l'intelligence humaine, en tant que croyant. Les cinq voies de saint Thomas font partie de son œuvre théologique. C'est pas de la philosophie. C'est la philosophie, c'est la théologie. En tant que théologien, en tant que croyant, il veut éprouver son instrument, l'instrument dont il se sert, c'est l'intelligence humaine. Si l'intelligence humaine, hypothèse, si l'intelligence humaine ne pouvait pas découvrir l'existence de Dieu, il ne pourrait pas y avoir de théologie scientifique. Je vous disais, et je le redis maintenant, ceci, il faut le voir intellectuellement. En avoir l'évidence. Si vous n'avez pas l'évidence de ça, essayez de voir où ça bloque. Il faut penser. Si l'intelligence humaine peut par elle-même atteindre l'existence de Dieu, ce que la doctrine de l'Église nous demande, j'ai pas le droit de nier ça. Vatican I l'a dit expressément. Et toute la tradition des pères et des théologiens l'ont dit. Sauf Luther. J'ai fait l'enquête, là. Parce que ça m'intéressait beaucoup. Parce que pour moi, c'est ça le point sur lequel on se heurte. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Donc toute la doctrine de l'Église nous dit que l'intelligence humaine est capable par elle-même d'atteindre l'existence de Dieu. Si l'intelligence humaine est capable par elle-même d'atteindre l'existence de Dieu, l'intelligence découvre donc intellectuellement le moyen de passer du visible à l'invisible. Et le moyen de passer de ce qui est fini à l'infini. Donc, elle est capable de découvrir les notions analogiques. Et étant capable de faire ça, elle peut établir une théologie scientifique. Ça, enfin, j'aimerais beaucoup que vous réfléchissiez là-dessus. Et que ça devienne évident pour vous. Autant possible. Parce que je crois que c'est vraiment cela qui est la question que nous nous posons, de la possibilité d'une théologie. Vous comprenez, si je ne peux avoir qu'une théologie symbolique, métaphorique, poétique, ce n'est pas une théologie. Le logos. C'est le logos de Dieu. Le logos, quand il est parfait, donc la pensée, quand elle est parfaite, elle devient scientifique. Elle devient propre. Elle n'est pas métaphorique. Vous avez le droit, en tant que poète, d'employer la métaphore. Et même en tant que poète, vous l'employez tout le temps. Mais c'est de la poésie. Est-ce que la théologie, c'est de la poésie? Non, la théologie n'est pas de la poésie. C'est une pensée. Logos, au sujet de Dieu, et à partir de la foi, dans la lumière de la foi. Et c'est une pensée sur Dieu. Donc, c'est une coopération de la foi qui implique une adhésion non évidente à travers la révélation qui se sert de la parole humaine. Et du logos de cette parole, de la signification de cette parole, pour aboutir à certaines raisons analogiques propres. Donc voyez, tout le point très délicat, et qui est très délicat aujourd'hui, hein, on peut le dire entre nous, c'est ce que nous faisons, mais le dire pour l'extérieur, c'est pas commode. Je vous affirme. Il faut d'abord le voir entre nous. Puis après, on essaie de mettre des gants pour parler à l'extérieur. Mais ne mettez pas les gants d'abord. Parce qu'il n'y a plus de main. Vous essayez de saisir de la possibilité d'une théologie. Tous. Avant de faire de la théologie, c'est nécessaire aujourd'hui de la possibilité de. Vous avez d'une part la foi adhère à la révélation qui se fait à travers l'écriture. Vous avez d'autre part l'intelligence humaine qui peut lire cette écriture. Je peux lire l'écriture en pur philosophe. Il faut le faire de temps en temps, c'est très bon. Vous voyez, le faire de temps en temps, comprenez bien. Faites pas ça toute l'année. Tout simplement dire que, mais oui, ça signifie quelque chose. Et c'est même très poétique, c'est très beau, c'est magnifique, c'est étonnant. Comment les deux coopèrent? Comment il y a un contact? Pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il y ait un contact. Autrement, il n'y a pas de coopération. Les deux choses vont en parallèle. Comment il peut-il y avoir un contact entre d'une part la foi, d'autre part mon intelligence humaine? Le contact, c'est dans la parole de Dieu. C'est pas dans l'adhésion de foi. Et c'est pas dans la connaissance philosophique, métaphysique. Non, il n'y a pas de contact. Donc le contact, c'est dans la parole de Dieu. Et c'est sans doute l'intention profonde de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il pris une parole humaine? N'a pas inventé un nouveau langage? Si on lui avait donné conseil, il aurait dit ça. Oui, c'est merveilleux. Je vais recevoir le baptême. Je serai sûr d'avoir la foi parce qu'en même temps, j'aurai une nouvelle langue. La langue de la révélation. Et je serai seul à comprendre cette langue de la révélation avec tous les croyants. Je n'aurai pas besoin, quand je fais un sermon, de dire aux incroyants, partez, partez, vous n'y comprendrez rien. Ils n'y comprendraient rien du tout. Il y aurait la langue des croyants. J'aurais pu inventer ça. Ça aurait été tellement agréable. Il n'a pas fait. Il a pris la langue de tout le monde. Pourquoi? Plus proche de nous. Et surtout, permettre à l'homme de coopérer à la révélation. C'est quand même extraordinaire de coopérer à la révélation. De pouvoir se servir de la parole de Dieu sans l'abîmer. Parce que s'il n'y avait pas de contact entre la parole de Dieu et mon intelligence humaine et mon langage humain, je ferais un cocktail théologique qui abîmerait la parole de Dieu. Ce ne serait plus la parole de Dieu. Et ça changerait selon toutes les époques. Comprenez cette intention de Dieu qui se sert de la parole telle de l'homme. Et de la part de Dieu, c'est extraordinaire. C'est déjà le mystère d'incarnation. C'est déjà le mystère d'incarnation. C'est pour ça que Abraham, il a vu mon jour. C'est Jésus qui dit ça. Parce qu'il a reçu la parole de Dieu. Il a vu mon jour. Recevoir la parole de Dieu avec force. Pleinement que Dieu se sert d'une parole humaine qui est notre parole et qui la transsignification, qui en donne une signification qui touche le mystère à travers la parole. Pas seulement comme un voile, pas seulement comme une apparence, pas seulement pour emballer la parole de Dieu, l'envelopper, mais vraiment qu'il y ait une coopération entre l'homme et Dieu. Alors on comprend au terme, le mystère d'incarnation. Et dans le mystère d'incarnation, tu as voulu qu'une femme soit la mère de Dieu. C'est pour la coopération du mystère d'incarnation. Et Dieu veut qu'il y ait des théologiens qui coopèrent au mystère de l'inspiration, de la révélation. Et c'est pour ça qu'il y a un parallélisme entre ces deux services. Le service maternel de Marie et le service du théologien. Il y a une coopération des deux côtés, et une magnifique coopération. Et la parole de Dieu n'est pas abîmée par la théologie. Au contraire. La parole de Dieu est plus profonde. proche de moi. Un vrai théologien devrait rendre la parole de Dieu plus proche de l'intelligence de ses contemporains. Pour montrer que cette parole est vivante. Elle est tellement vivante qu'elle a transformé l'intelligence de celui qui parle. Et que celui qui parle communique cette parole de Dieu intégralement, sans la diminuer. Et qu'en même temps, il met toute son intelligence. Il est coopérateur de Dieu, coopérateur de la révélation. C'est très grand, ça. Comment c'est possible? C'est parce que l'intelligence humaine peut, par elle-même, découvrir l'existence de Dieu. Parce que l'intelligence humaine est capax dei. Elle est capable de s'orienter vers Dieu et de découvrir l'existence de Dieu. Si mon intelligence humaine n'était pas capable de cela, il n'y a aucune coopération possible. Or, l'intelligence humaine est capable de découvrir l'existence de Dieu à partir des effets remontés à la source. Et, comme nous l'avons vu, par le point de vue de la finalité. Toute la métaphysique de l'acte et de la puissance. Découvrir que la réalité qui existe porte en elle quelque chose qui me permet de remonter jusqu'à Dieu. Toute réalité créée par Dieu immédiatement par Dieu. Parce que l'œuvre d'art, c'est pas direct. Mais toute réalité immédiatement créée par Dieu, mon âme, créée directement par Dieu, elle porte en elle un appel vers Dieu. Et je peux donc découvrir par mon intelligence humaine, à travers la parole de Dieu, ces raisons analogiques qui permet la coopération. J'aimerais beaucoup que là, si vous avez des difficultés, vous n'arrivez pas à le comprendre, vous puissiez le noter. C'est un effort de réflexion. Mais parce que ça, c'est capital. Pouvoir avancer après. C'est absolument nécessaire de voir comment l'intelligence humaine est capable, par elle-même, de remonter jusqu'à Dieu. Et par le fait même, la révélation n'est pas totalement étrangère. C'est une autre façon de regarder. Si mon intelligence humaine était incapable de remonter jusqu'à Dieu, si mon intelligence humaine était uniquement une intelligence qui raisonne et qui est faite pour faire des mathématiques, uniquement, capable de la science, uniquement de la science. La révélation serait quelque chose de totalement étranger. Je l'accepterais peut-être. Je pourrais dire je l'accepte, mais je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien du tout. C'est complètement étranger. Et c'est vrai. La parole de Dieu par rapport aux mathématiques est totalement étrangère. Dieu ne s'est pas révélé en mathématicien. Heureusement pour nous. Parce que ça aurait été des super mathématiques que peut-être un individu aurait compris. Dieu parle en père. Dieu parle en ami. Dieu parle en époux. Et j'ai dans mon intelligence quelque chose qui est capable de rejoindre cela. Sans l'abîmer, sans le diminuer. C'est assez étonnant, ça. De bien saisir ça. Et je dis, je vois que saint Thomas lui-même nous indique cela. Comment sa somme théologique par les voies d'accès vis-à-vis de Dieu. seule signification de ça, c'est parce que justement, il veut éprouver l'instrument dont il va se servir. C'est pour ça qu'il faut considérer les cinq voies dans une perspective théologique et une perspective critique, où saint Thomas éprouve l'intelligence humaine, lui-même, puis après s'en sert. Et ça, c'est l'aspect, vous voyez, très important de la critique qui, là, est antérieure à la théologie. Comme, de fait, il y a un aspect critique antérieur à la théologie naturelle, des deux côtés. Mais antérieur pour déblayer le terrain et pour pouvoir marcher. Bon, une fois qu'on a découvert ça, alors vous voyez tout de suite hein, que après Kant, comme c'est difficile, puisque pour Kant, il n'y a qu'un seul moyen de rejoindre l'existence de Dieu, c'est l'impératif catégorique au plan moral. Donc mon intelligence qui recherche la vérité ne peut plus rien dire de Dieu. C'est pour ça que Kant se réfugie dans une anthropologie. Et c'est pour cela que Karl Rahner dit ouvertement qu'est-ce que c'est le caractère de la théologie moderne, c'est de remplacer la métaphysique par une anthropologie. D'ici. C'est ennuyeux. Parce que Kant est luthérien. Très curieux, ça. Vous voyez, j'ai déjà dit à certains, il y avait un étudiant à Fribourg qui voulait faire une thèse sur quelle est la philosophie dont Karl Rahner se sert pour faire sa théologie. Il a écrit à Karl Rahner. J'ai vu la lettre. Et j'ai vu la réponse. Et Karl Rahner a répondu, mon cher ami, je suis désolé, mais je ne sais pas la philosophie dont je me sers. C'est intéressant. Je me sers d'aucune philosophie. Mais c'est intéressant de mettre en parallèle Kant et Karl Rahner à ce point de vue-là. Vous voyez, ça c'est sûr, c'est très intéressant de mettre en parallèle. Et comme on le signalait tout à l'heure, de voir que Karl Rahner a été disciple de des thomistes de Louvain, de Maréchal, qui voulaient montrer le pont, le lien entre Thomas d'Aquin et Kant. J'en ai parlé dans Une métaphysique est-elle encore possible aujourd'hui? En montrant la manière dont toute une théorie de thomistes essaie de montrer le pont entre Thomas d'Aquin et Kant. Thomas d'Aquin et l'existentialisme. Thomas d'Aquin. Et évidemment, dès qu'on fait ça, on n'est plus dans la perspective de Thomas d'Aquin. Parce que Thomas d'Aquin n'a jamais pensé rejoindre Kant. Je crois pas. Thomas d'Aquin cherche la vérité. Et Thomas d'Aquin aurait dit Kant n'a pas saisi la vérité. Métaphysique. N'a pas pu. Il y avait un a priori, il y avait un obex. Et c'est ce que dira spontanément quelqu'un qui est un peu habitué au langage de Thomas d'Aquin, de voir que Kant, mais oui, au point de vue métaphysique, c'est pauvre. Et Kant a pour lui, il a pour lui, d'avoir commencer la métaphysique avec Wolff. Et le premier Kant est wolffien. Il est tout différé dans Wolff. Il donne des preuves d'existence de Dieu à la manière de Wolff. Et c'est pour cela que le second Kant, qui critique la la métaphysique critique la métaphysique de Wolff. Et pour lui, la métaphysique, c'est Wolff. Alors, il y a une très grande excuse. Et c'est pour ça qu'il voudrait reprendre une nouvelle métaphysique. Et il va arriver. Mais c'est intéressant. De voir que comment Kant, ne pouvant pas arriver à la métaphysique, se replie sur une anthropologie. Et de voir que Karl Rahner considère que le grand tournant de la théologie d'aujourd'hui, c'est d'avoir remplacé la métaphysique par l'anthropologie. Alors, maintenant, passons à cet autre problème, encore critique. Je signale bien. Je regarde, c'est le point de vue critique, ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est nécessaire en face de tout ça de déblayer le terrain. Il y a un bulldozer. C'est après les bombardements, il faut faire passer le bulldozer. Parce qu'autrement, on ne retrouvera plus les vraies pistes. Et le bombardement, pour moi, c'est toutes ces idéologies athées. C'est le bombardement par rapport à l'intelligence humaine. Un fameux bombardement. Après, quelles sont les conditions qui permettent d'établir une théologie, qui permettent à une philosophie de coopérer à la foi pour donner une vraie théologie, pour ne pas abîmer la parole. Pour ne pas diminuer la vérité. Les hommes ont diminué la vérité. Le psaume. Pour ça, je dois regarder le mystère de la foi. Parce qu'il s'agit de coopérer au mystère de la foi. Et coopérer au mystère de la foi, c'est la foi qui assume. Donc c'est la foi qui commande. C'est dans la lumière de la foi que je peux comprendre ce que la foi peut accepter sans la diminuer, en la respectant. La foi est une connaissance divine, un don de Dieu, surnaturel, qui me fait adhérer à Dieu lui-même se révélant. En me servant de la parole révélée, inspirée. C'est donc une parole qui est éminemment contemplative, puisqu'elle me permet d'adhérer à Dieu qui se révèle à moi. Or Dieu, je ne peux le connaître que d'une manière contemplative. Je ne peux pas analyser Dieu.